VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 6 septembre 2022. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia. Pour commencer, les titres. Le Burkina Faso, à nouveau endeuillé par une attaque qui a fait au moins 35 morts. Au Nigeria, noyade d'une centaine de combattants djihadistes fuyant une offensive de l'armée. En Guinée, heure à Conakry entre manifestants et forces de sécurité au premier anniversaire du coup d'État du colonel Mamadi Doumbouya. Au Kenya, la Cour suprême confirme l'élection de William Ruto à la présidence du 9 août face à Raila Odinga. Ici aux États-Unis, victoire pour l'ex-président Donald Trump. Un expert indépendant devra examiner les documents saisis chez lui, tranche une juge fédérale. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, au moins 35 civils ont été tués hier dans l'explosion de leur véhicule sur une mine. Aussi, 37 personnes, toutes des civils, ont été blessées. L'explosion a eu lieu entre Djibo et Bourzanga, dans le nord du pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'attaque a eu lieu dans la journée d'hier, 5 septembre. Selon le communiqué du gouverneur, il s'agissait d'un convoi de ravitaillement escorté, en partance pour Ouagadougou, la capitale. Le communiqué explique qu'un des véhicules transportant des civils dans le dit convoi a explosé au contact d'un engin explosif improvisé. Le bilan provisoire fait état de 35 morts et de 37 blessés, tous des civils, précise le communiqué, ajoutant que l'incident s'est produit entre Djibo et Bourzanga. C'est dans le nord du pays. Les éléments de l'escorte ont rapidement sécurisé le périmètre et pris des mesures pour porter assistance aux victimes, a poursuivi le communiqué. Le gouverneur a rassuré que les blessés ont été pris en charge et les cas difficiles ont été évacués vers des structures appropriées. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et au Nigeria, une centaine de combattants djihadistes sont morts noyés dans une rivière du nord-est du pays alors qu'ils tentaient de fuir une offensive militaire. Selon des sources sécuritaires, 4 militaires nigérians sont également morts au cours de l'opération. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après ses sources sécuritaires, l'armée a lancé la semaine dernière une offensive terrestre et aérienne pour déloger les djihadistes de plusieurs villages situés le long de la rivière Yezaram. Dépassés, les combattants se sont alors jetés dans la rivière dans l'espoir de fuir, mais beaucoup sont morts noyés. Les soldats, appuyés par des avions Super Tucano et des Alpha Jets, ont mené des opérations de nettoyage dans les villages de Boussoua, Maloum, Fatari, Dangagari, Galtawa et Baram Kama, a déclaré Boukar Grema, membre d'une milice anti-djihadiste. Il ajoute que la majorité des combattants de Boko Haram se sont noyés dans la rivière et leurs corps gonflés ont été retrouvés flottants à la surface samedi. Le ministre nigérian de la Défense, Bashir Salihi Magashi, a déclaré lundi qu'il y avait eu des opérations terrestres et aériennes massives contre les djihadistes la semaine dernière, mais n'a pas donné de bilan précis. La rivière Yezaram se situe dans l'état de Borno, près de la forêt de Sambisa, principal repère de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest.
En Guinée, des affrontements sporadiques entre manifestants et forces de sécurité ont éclaté lundi dans la banlieue de Conakry, partiellement paralysée, un an après le coup d'État qui a porté les militaires au pouvoir. Le point avec Rosine Mounezero.
Le Front national pour la défense de la Constitution, coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile, rejoint par ce qu'il reste de l'opposition, avait appelé à manifester lundi pour réclamer un retour plus rapide à l'ordre constitutionnel et dénoncer une confiscation du pouvoir, la répression de la contestation et une instrumentalisation de la justice. Malgré l'interdiction par la junte de tout rassemblement depuis mai et la dissolution du FNDC décrétée par les autorités en août, des manifestations de tous côtés se sont déroulées dans des quartiers acquis à l'opposition de la banlieue de la capitale, comme Sonfonia, Wanindara, Bambeto et Amdalaï, et à Koza, où une dizaine de jeunes ont été interpellés. Hier soir, Un concert festif était annoncé au centre-ville, sur l'esplanade du Palais du Peuple, pour célébrer l'arrivée au pouvoir des militaires il y a un an. 5 personnes avaient été tuées lors de journées de contestation fin juillet et 2 le 17 août. 2 des leaders du FNDC, Oumar Sylla et Ibrahima Diallo, sont détenus depuis les manifestations de fin juillet.
Le département d'État américain a félicité dans un communiqué William Ruto pour sa victoire à la présidentielle kényane du 9 août et son rival Raila Odinga pour avoir respecté la décision de la Cour suprême ainsi que le peuple kényan pour la conclusion d'un processus électoral pacifique. Lundi, la Cour suprême du Kenya a confirmé à l'unanimité l'élection de William Ruto, mettant un terme à des semaines de controverses et d'incertitudes après des accusations de fraude lancées par son rival. Mais Raila Odinga a dit respecter le verdict, même s'il le désapprouve avec véhémence. De son côté, M. Ruto a appelé à l'unité, tendant une main fraternelle à ses adversaires, soulignant « Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des Kenyans ». La Somalie est au bord de la famine, a alerté lundi le chef de l'agence humanitaire de l'ONU dans un ultime avertissement avant une catastrophe dans ce pays de la Corne de l'Afrique en proie à une sécheresse historique. La famille frappe à la porte. Aujourd'hui, c'est un ultime avertissement, a lancé Martin Griffith, le chef de l'OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, lors d'une conférence de presse à Mogadiscio, la capitale somalienne. À travers le pays, un total de 7,8 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, sont affectés par une sécheresse historique dont 213 000 sont en grand danger de famine, selon les chiffres de l'ONU. La faim et la soif ont jeté sur les routes 1 million de personnes depuis 2021.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un expert indépendant devra être nommé pour passer en revue les documents saisis par le FBI, la police fédérale, début août, au domicile de l'ancien président Donald Trump. La justice répond donc favorablement à la demande de M. Trump. Le point avec Abdulrahman Dia.
La juge Helen Cannon a accédé à la demande de l'ancien président par cette décision qui interdit temporairement aux enquêteurs fédéraux d'utiliser dans le cadre de leur enquête criminelle les documents saisis à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump à Palm Beach, en Floride. Les enquêteurs peuvent en revanche continuer de passer en revue les documents à des fins de classification et d'évaluation de sécurité nationale, selon le jugement de la magistrate fédérale. La décision représente une victoire pour l'ancien président républicain et un sérieux revers pour le ministère de la Justice qui s'était opposé à la nomination d'une tierce partie indépendante, affirmant qu'elle pourrait bloquer l'accès des enquêteurs aux documents et porterait sévèrement atteinte aux intérêts gouvernementaux, y compris en matière de sécurité nationale. La juge Cannon écrit dans sa décision que la nomination du superviseur indépendant sera faite sans tarder, demandant aux parties de venir avec une liste de noms potentiels pour une audience prévue vendredi. Le 8 août, le FBI avait perquisitionné Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride, saisissant des cartons de documents confidentiels que le républicain n'avait pas rendus après avoir quitté la Maison-Blanche malgré de multiples demandes.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson va officiellement présenter ce mardi sa démission à la reine Elizabeth, qui demandera alors à Liz Truss de former un gouvernement dans une période particulièrement difficile pour le Royaume-Uni, confronté à une crise économique et sociale historique. L'Agence internationale de l'énergie atomique doit rendre ce mardi un rapport sur la situation de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par les forces russes déconnectées depuis lundi soir et qui fait planer un risque radiologique depuis des mois. Raphaël Grossi, chef de l'agence, rendra compte au Conseil de sécurité de l'ONU, selon l'AIEA. Un Palestinien a été tué et 16 autres blessés lors d'une opération mardi de l'armée israélienne à Jénine, en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. L'opération israélienne visait à détruire la résidence de l'auteur d'une attaque fatale à 3 Israéliens le 7 avril dernier, en plein cœur de Tel Aviv. Au Canada, l'un des deux suspects des attaques au couteau qui ont fait 10 morts et 18 blessés au sein d'une communauté autochtone a été retrouvé mort. Le deuxième est toujours en fuite alors que des centaines de policiers étaient toujours mobilisés lundi dans une gigantesque chasse à l'homme. En Chine, pompiers et militaires s'activent ce mardi pour sauver des vies après un puissant séisme de magnitude 6,6 lundi, qui a déjà fait 65 morts dans la province de Sichuan, dans le sud-ouest montagneux du pays. En 2008, un terrible tremblement de terre avait fait 87 000 morts ou disparus dans cette zone. L'euro a plongé sous le seuil de 0,99 $ lundi, une première en 20 ans sur fond de crainte pour l'économie européenne après l'annonce de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream 1 par le russe Gazprom. La Minute Éco, Mohamed Oumfa.
Les États-Unis estiment que l'offre d'énergie doit correspondre à la demande en réaction à la décision des pays de l'OPEP de réduire leur production de pétrole brut pour soutenir les cours. Washington avait exhorté ces pays à augmenter leur production pour faire descendre les prix de l'énergie et lutter contre l'inflation. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a souligné dans un communiqué que les États-Unis ont procédé à l'utilisation historique de leurs réserves stratégiques de pétrole brut et augmenté leur production domestique de plus d'un demi-million de barils par jour depuis le début de l'année. Pour sa part, le vice-premier ministre russe, chargé des questions énergétiques, a estimé lundi que le plafonnement du prix du pétrole brut russe, annoncé vendredi par le G7, provoque des incertitudes sur les marchés mondiaux. L'Algérie est un partenaire énergétique fiable, a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel en visite lundi dans ce pays nord-africain. Les dirigeants européens envisagent de solliciter l'Algérie, plus grande exportatrice de gaz d'Afrique, pour compenser leur déficit énergétique provoqué par l'invasion russe en Ukraine. La situation est devenue plus difficile en Europe après la décision de la Russie d'arrêter les livraisons de gaz à l'Allemagne à travers le gazoduc Nord Stream à quelques semaines de l'automne.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouidraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
La nouvelle saison de la Ligue des Champions débute ce soir en Europe.
Oui, le lauréat 2021 Chelsea, des nouvelles recrues sénégalaises Kalidou Koulibaly et gabonaises Pierre-Emerick Aubameyang vont à Zagreb avec un effectif renforcé. Manchester City se déplace sur la pelouse du FC Séville. Le Real Madrid, candidat à sa propre succession et en quête d'un 15e sacre, entrera en lice à Glasgow contre le Celtic. En Autriche, le RB Salzbourg recevra le champion d'Italie, l'AC Milan. Pour le RB Leipzig, ce sera le Shakhtar Donetsk. Le Paris Saint-Germain du Marocain Achraf Hakimi démarre sa campagne par un choc contre la Juventus Turin. Comme il fallait s'y attendre, en conférence de presse d'avant-match, l'affaire de la famille Pogba a ressurgi. Le nom de Kylian Mbappé est apparu dans le dossier. Mathias Pogba, frère aîné de Paul, ayant affirmé dans une vidéo que Paul avait engagé un marabout pour jeter un sort sur Kylian Mbappé. Ce dernier dit avoir reçu un appel de son coéquipier en équipe de France, Paul Pogba donc, et dit s'en tenir à sa version des faits. Kylian Mbappé.
Au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui.
Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain.
Justement, Paul Pogba, finalement opéré.
Oui, la star de l'équipe de France a finalement dû se résoudre lundi à subir une opération du genou droit, option qu'il avait refusée début août. L'annonce est faite par l'entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, À la veille du match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, les médias italiens évoquaient lundi une indisponibilité de l'ordre de 6 à 8 semaines. Cette intervention jette une ombre sur la participation de Paul Pogba au Mondial 2022 en fin d'année.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, était ce lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une rencontre avec le président Alassane Ouattara. Mais ce qui fait l'actualité au Burkina même, c'est le discours que le chef de la junte burkinabé a prononcé dimanche à Dori, dans le nord du pays. Un discours pour faire le bilan de ses 7 mois de pouvoir depuis qu'il a renversé le 24 janvier le président démocratiquement élu Roch Kabore. Il a notamment évoqué une certaine accalmie dans plusieurs régions. Khalifara Séré est administrateur civil et spécialiste des questions de sécurité. Il revient d'abord sur cette question d'accalmie évoquée par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba.
Le chef de l'État, lui, il dit que c'est parce qu'eux, ils ont fait beaucoup de frappes, ils ont exercé des pressions, et quand les groupes sont dispersés, ils sont partout et font des attaques de. Comment ils les appellent, de prestige. Pour ouais. Faire valoir, pour faire quoi. Mais ce discours, on l'a déjà entendu plusieurs fois sur le président Kabore. Parce qu'on a dit, ah oui, ils sont affaiblis, ils sont quoi. Et puis après, on voit qu'ils ont la capacité de faire de, encore beaucoup mal et très très mal. Et ça, bon, ça fait que tout le monde reste.
Pour vous, ce bilan ne correspond pas à la réalité sur le terrain.
Bon, il n'a pas pris le risque d'aller dans les détails. Il n'a pas, donc, il a un peu enlobé tout ça, mais il a tout fait. Bon, ça aussi, je crois que c'est une stratégie de communication militaire. Ils ne pouvaient pas mettre l'accent sur les affaires sombres.
Ce week-end, il était à Bamako et ce lundi, il est à Abidjan, sur Ouattara. Est-ce que la solution pourrait venir de ce côté-là, une coopération plus renforcée entre les armées de ces pays voisins?
Oui, assurément. La coopération stratégique militaire est inévitable. Si on traîne, on va perdre du temps, mais on vient sur. Mais il faut quelque chose de plus concerté, de plus intime à nos États. Contrairement, on ne veut pas quelque chose d'exogène ou d'extraversé comme le G5 Sahel. Vous savez très bien que là, ce n'était pas nous, notre élément de géopolitique, mais plutôt la France qui avait un peu dirigé ce genre de mécanisme-là. Et ça ne m'a jamais bien su, parce que ça n'est pas intime à nous-mêmes, ça ne fait pas partie de notre existence. Par contre, là, si nous arrivons, notamment avec le Mali, à nouer véritablement une autonomie, construire une autonomie stratégique binaire, je crois que les résultats vont être immédiatement perceptibles.
C'était contacté par Bagassi Koura, Khalifara Séré, administrateur civil et spécialiste des questions de sécurité.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Il y a un an, le 5 septembre 2021, coup d'état des militaires en Guinée pour chasser du pouvoir le président Alpha Condé. À la tête d'une junte pour une transition d'une durée contestée de 3 ans, le colonel Mamadi Doumbouya promet de réconcilier les Guinéens autour de l'essentiel, amorcer un véritable développement du pays. Un an après, les tensions sont vives entre les militaires d'un côté et la classe politique et la société civile de l'autre. Entre les soutiens et les déçus de la transition, les avis sont partagés sur la politique de la junte. Yacouba Ouédraogo a joint à Conakry le professeur Kabiné Fofana, politologue et analyste politique.
il y a aujourd'hui une espèce de méconfiance qui s'installe, assez perceptible d'un point de vue du consensus politique profond qu'il y a entre le CNRD et la classe politique et les acteurs sociaux les plus importants. Et ceci est aussi la cause de la désignation d'un médiateur de la crise en Guinée.
Mamadi Doumbia avait fait la promesse de réunir toutes les forces vives du pays. Qu'est-ce qu'on constate sur le terrain aujourd'hui?
Depuis les premières consultations qui ont été organisées donc dans la foulée de la prise du pouvoir par le CNRD, on a comme l'impression que le CNRD avait donc du mal à faire avec les acteurs politiques et sociaux les plus importants. Donc à la fois, vous avez un manque de compromis autour de la durée de la transition, mais d'une manière globale, même sur le projet politique de la transition.
Le CNRD avait interdit les manifestations. Le Front national de la défense de la Constitution, FNDC, donne de la voix et dit prévoir marcher. Finalement, à quoi ressemble la Guinée aujourd'hui, un an après le coup d'État?
On est exactement dans un schéma qui fut celui de 2008 sous le CNDD de Dadis Camara, qui avait donc du mal à faire avec les acteurs politiques qui étaient engagés à donc prouver qu'il y avait une frange importante de la population qui n'était pas d'accord avec ce schéma-là. Vous avez donc aujourd'hui une espèce de crise qui ne dit pas son nom et qui prend de l'ampleur au fur et à mesure. Vous avez le FNDC qui, au départ, avait quand même apporté son soutien au Bout. Et parmi eux, la plupart de ces acteurs sont en prison. Il y a l'interdiction de ces activités, des acteurs politiques qui, pour la plupart, ne partagent pas donc cette façon de faire du CNRD.
Est-ce qu'il y a des avancées positives quand même qu'on pourrait noter?
Il faut saluer depuis le 5 septembre cette volonté politique du CNRD de réprimer la délinquance financière et économique à travers donc la matérialisation de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, qui, même si elle a du mal à se tirer d'affaires, ça reste une volonté politique importante. Et le fait aussi que après 10 ans, qu'il y ait une volonté politique réelle de la part donc du CNRD de faire aboutir le procès du 28 septembre 2009, ceci est le fondamental.
Qu'est-ce qu'il faudrait rectifier en ce moment pour une bonne marche de cette transition-là jusqu'à terme?
Il y a 3 défis. C'est l'ouverture, c'est le compromis, c'est le dialogue. C'est extrêmement important, encore plus important sous une transition où les lois, les résolutions, c'est plus le consensus. Qui parle de consensus parle de compromis, parle d'ouverture, parle donc de dialogue in fine. Et je crois qu'il faudra aller dans ce sens. Attendant par exemple la durée de la transition, il faut se retrouver, il faut le changer. Peu importe le format, il faut une volonté de discuter, aussi bien avec les acteurs sociaux que les acteurs politiques, mais aussi avec la communauté internationale.
Joint à Conakry, le professeur Kabiné Fofana, politologue et analyste politique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, a lancé en Somalie un CBT, transfert en espèces, pour aider les familles déplacées touchées par l'aggravation de la sécheresse dans la Corne de l'Afrique. Cette année, la sécheresse a coïncidé avec une hausse mondiale des prix des denrées alimentaires et du carburant imputée à la guerre en Ukraine. Dilidico fait le point.
Les familles des régions de la Somalie touchées par le conflit reçoivent des dons en espèces pour les aider à faire face à la sécheresse et à la hausse de l'inflation. Cette aide d'urgence est la première d'une série de paiements mensuels destinés à aider les personnes chassées de chez elles par la grave sécheresse. Environ 150 000 familles ont déjà bénéficié du plan d'assistance en espèces par téléphone portable. Chaque famille a reçu $90 pour couvrir le coût de la nourriture ou d'autres articles de base dans le cadre du programme géré par le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Lorsque Dadir Ahmed Adan a reçu cette aide, il dit avoir utilisé $50 pour ouvrir une petite boutique et le reste pour acheter de la nourriture pour sa famille. Il vit au camp depuis le mois de juin.
J'ai quitté la région de Bakoul après que mon bétail a péri à cause de la sécheresse. Les pluies ont manqué pendant 3 ans, alors les animaux sont tous morts.
La sécheresse a duré pendant 4 années consécutives. L'impact économique de l'absence des pluies sur les communautés vulnérables est aggravé par le conflit et la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant. L'aide en espèces vise à aider les plus vulnérables à survivre et à minimiser leur endettement. Écoutons à nouveau Dadir Ahmed Adan.
Notre transport de Bakoul à Belédouine se faisait à crédit. J'ai remboursé ma dette au chauffeur après avoir reçu l'argent du CICR.
Avec les prochaines pluies prévues en octobre, les familles rurales, privées de leurs moyens de subsistance, continuent de fuir vers les villes en espérant recevoir l'aide de parents ou de groupes humanitaires. Plus de 30 000 personnes ont été déplacées en mai, 100 000 en juin et 83 000 en juillet, selon les Nations Unies. Depuis janvier 2021, plus d'un million de personnes auraient été déplacées à cause de la sécheresse. Pour aider les habitants à faire face à l'aggravation des crises climatiques, des coopératives agricoles reçoivent des semences résistantes à la sécheresse, des outils agricoles, des formations et de l'argent pour le carburant nécessaire à l'irrigation. Hassan Nour est un agronome du CICR et chef d'une coopérative en Somalie.
Nous faisons cela pour maintenir leur activité agricole malgré les sécheresses qui surviennent.
Pour les éleveurs, la perte de bétail est chose courante depuis que la végétation et les pâturages, source de nourriture pour les animaux, sont devenus difficiles à trouver. En plus des aides en espèces aux personnes vivant dans les régions arides de la Somalie, le CICR s'occupe de la remise en état de forages et de puits et soutient également les services de soins de santé primaires.
Les habitants de Jackson, la capitale du Mississippi, l'un des États américains les plus pauvres, n'ont toujours pas d'eau potable. Après des inondations majeures dans la ville, sa principale usine de traitement des eaux est tombée en panne. Certains estiment que le problème est profondément ancré dans cette ville à majorité noire, qui historiquement a enduré le racisme et qui fait maintenant face à la crise de l'eau. Un reportage d'Arash Arabassadi avec le récit d'Abdourahman Dia.
Des membres de la garde nationale distribuent de l'eau potable, dont les habitants de Jackson, dans le Mississippi, ont tant besoin. Récemment, de fortes pluies et des inondations ont plongé une bonne partie de cet état sous les eaux. Le système d'approvisionnement en eau de la ville est partiellement tombé en panne et les plus de 160 000 personnes vivant à Jackson, pour la plupart des Africains américains, ont dû prendre les choses en main en faisant bouillir l'eau qu'elles peuvent obtenir de leurs tuyaux. La semaine dernière, le gouverneur du Mississippi a déclaré l'état d'urgence alors que les habitants faisaient la queue pour obtenir de l'eau potable. Le gouverneur du Mississippi, Ted Reeve, lors d'une récente conférence de presse.
Je tiens à remercier personnellement nos membres de la garde nationale qui sont sur le terrain pour doter ces sites et rendre cette opération possible. Leur service est vraiment essentiel au succès de cet effort.
Le gouverneur Reeves a fait savoir que près de 3 millions de bouteilles d'eau avaient été distribuées à Jackson au moment de sa conférence de presse. Depuis le mois de juillet, il était déjà conseillé aux habitants de la ville de bouillir l'eau avant toute consommation. La détérioration des infrastructures hydrauliques et les menaces croissantes sur leur stabilité sont mises en cause. Chokwi Antar Lumumba est le maire de la ville de Jackson.
Nous constatons non seulement l'âge et l'usure de notre système, mais nous constatons également les effets du changement climatique. Nous avons des hivers plus froids, des étés plus chauds et plus de précipitations chaque année. Tout cela pèse lourdement sur nos infrastructures hydrauliques.
Le gouverneur et le maire ont visité la station d'épuration la semaine dernière, accompagnés de l'administratrice de l'Agence fédérale de gestion des urgences, ou FEMA, Diane Criswell.
Là où nous nous concentrons en ce moment pour ce qui est de la FIMA, c'est de pouvoir nous assurer que nous pouvons fournir et soutenir l'agence de gestion des urgences du Mississippi en apportant de l'eau potable, de l'eau en bouteille et en soutenant leurs opérations. Mais le plus important encore, c'est de faire appel à nos partenaires fédéraux qui peuvent vraiment comprendre ce qu'il faudra pour amener cette usine à sa pleine capacité opérationnelle.
Alors que les résidents qui ont les moyens de s'approvisionner en eau de source continuent de charger leurs voitures, les responsables locaux affirment que l'usine de traitement de l'eau en difficulté a besoin d'une solution plus permanente, plus rapide et socialement équitable.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro Idrissa Sedoudia, à la mise en onde Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.